Le discours antique sur la déviance religieuse a produit des traités entiers dédiés à ces sujets. Dans la tradition latine, le texte de Sénèque de la moitié du 1er siècle, De Superstitione, est préservé seulement par fragments. Le traité de Plutarque de Chaironea, Peri Deisidaimonia, écrit cependant peu après, peut-être autour des 70 après Jésus-Christ, a été transmis dans son intégralité. Ces deux textes ont été soumis à d'intensives analyses de la part des philosophes et des historiens des religions. Le texte de Plutarque est remarquable pour sa façon d'opposer Deisidaimonia d'un côté et athéisme de l'autre comme les deux principales formes d'une mauvaise position vis-à-vis des dieux. Cette antithèse structure le texte entier, menant à une comparaison qui, de façon surprenante, préférait l'athéisme, ne menant jamais à la superstition, aboutissant fréquemment à l'athéisme. Ceci a même mené à la hypothèse que Plutarque avait utilisé une diatribe du 3e siècle avant Jésus-Christ de l'athée sunnique Bion de Borysthène. La caractéristique dominante de la superstition est la crainte des dieux, montrant clairement un faux concept des dieux, une théologie erronée. Ceci inclut sans différenciation les démons. Dans sa tentative de tracer le concept de superstition, principalement dans les textes grecs, Dale Martin a légitimement signalé que le concept de daimones, qui peuvent avoir des attitudes négatives envers les hommes, est seulement introduit par Plutarque dans des textes plus tardifs. Et devient assez conséquent puisqu'il sape une ligne générale d'argumentation philosophique. Dans son texte antérieur, Plutarque se concentre sur l'ambiguïté de la piété qui en résulte si celle-ci est souillée par une crainte injustifiée. C'est son choix d'exemple. Ces observations qui donnent un aperçu des inquiétudes pragmatiques en ce qui concerne la religion contemporaine. Son analyse commence dans le domaine privé, dans le sommeil ou à la maison, mais elle arrive rapidement au temple. Au lieu d'un droit de salut en crise, les sanctuaires deviennent des endroits de punition pour les superstitieux. Cette logique de haine et de crainte et d'une recherche de proximité avec les dieux imprègne le traité entier. La proscunesse devant des images à la place d'une conception réaliste de divinité transcendante, combinant critique des dieux et refuge et caractéristique. Rester à la maison est une forme plutôt légère de Deisidaimonia. La forme la plus sévère est réalisée dans les temples des dieux. C'est l'image des Carthaginois sacrifiant leurs propres enfants qui forme le point culminant final d'analyse, concluante de la Deisidaimonia en tant que désordre émotionnel, menant à l'athéisme plutôt que à l'eusebia, le mot final, la piété juste. Le choix d'exemple de Plutarque peut néanmoins être considéré comme accidentel s'il n'est pas mis en parallèle avec le texte légèrement antérieur de Sénèque, probablement inconnu de Plutarque. L'un des quelques fragments connus du traité De Superstitione du stoïque romain traite de pratiques comparables, des personnes qui lavent ou peignent une statue à distance, par exemple. Je vous donne une traduction. Mémente au Capitole, tu rougiras de voir s'étaler la démence en tout ce qu'une vaine folie se croit en devoir d'accomplir. L'un soumet des noms à Jupiter, un autre lui annonce l'heure, un autre est son masseur, un autre son parfumeur qui par le vain mouvement de ses bras imite l'action du parfumé. Des femmes arrangent la chevelure de Junon et de Minerve, se tenant à distance non seulement de l'idole mais du temple. Elles remuent les doigts à la manière des coiffeuses. D'autres leur présentent le miroir. Il y en a qui prient les dieux de les assister dans leur procès, qui leur remettent des requêtes, qui leur expliquent leur affaire. Un habit archimime, vieillard déjà décrépit, jouait tous les jours son rôle au Capitole, comme si les dieux prenaient plaisir à le regarder. Le fragment suivant, également cité volontairement par Augustin, rend la composante émotionnelle encore plus explicite. Pourtant, je traduis, pourtant ces services voués à un dieu, tout inutile qu'ils soient, ne sont ni honteux ni infâmes. Mais des femmes s'installent au Capitole, se figurant être aimées de Jupiter. Et même le regard de Junon, si ombrageuse pourtant à en croire les poètes, ne leur fait pas peur. Bien sûr, la raillerie ne conduit pas ma citation comme elle conduit celle de Saint Augustin. C'est le stoïcisme de Sénèque qui critique le remplacement de la raison par l'émotion, comme l'indiquent des mots tels que « furor »,« insanire »,« dementia ». L'entière ligne d'argumentation court à partir des émotions de deuil et de joie supposément fictives, régulées par le calendrier dans le cas d'Isis, jusqu'au fait de tomber amoureuse de Jupiter à la fin. Les lieux où se manifestent ces émotions sont des sanctuaires dans l'argumentation de Sénèque. Ceci est clair dans un fragment un peu plus tardif cité dans le même chapitre par Augustin qui s'intéresse, comme Sénèque, aux émotions, mais contrairement à Sénèque, aux dieux plutôt qu'à leur temple. Ainsi, les combinaisons, les unions des dieux critiquées par les deux auteurs ne sont pas rapportées à la mythologie, mais au temple, comme le démontrent les termes « ad oramus et cultum ». Suivant la voie indiquée par les exemples, la superstition mène à une émotion intensive, à, comme je veux le conceptualiser, une expérience religieuse transgressant le contrôle social. Ici, à présent, le temple est en fait un emplacement ambigu. C'est le lieu, fréquemment plus public, le plus institutionnalisé et visible pour la religion, d'où la place pour la forme d'action religieuse la plus publique, la plus traditionnelle et la plus contrôlée. En même temps, abritant la statue, les temples offrent la possibilité de ressentir la présence des dieux sous la forme de leur statue, mais non potentiellement aux comportements individuels les plus honteux. C'est vers cet aspect de la religion antique que je vais me tourner à présent. Dans une perspective européenne, l'approche critique de Sénèque et de Plutarque n'est pas nouvelle, ni la sélection d'Augustin la plus indicative. Les religions antiques que nous essayons de conceptualiser comme religion traditionnelle ou religion de la polis, culte civique ou polythéisme comme un système ouvert, pour éviter le terme péjoratif de paganisme, elle avait simplement été appelée idolâtrie par les juifs ou les chrétiens, non seulement des polémistes, mais aussi de simples observateurs. En fait, en utilisant les statues abritées dans le temple, les religions antiques avaient un puissant instrument pour construire ou, à partir d'une perspective différente, représenter le divin dans une forme différenciée, c'est-à-dire dans le pluriel polythéiste. Les projets de figura menés par Nicole Belaïch ici se concentrent sur cette dimension de l'histoire de la religion gréco-romaine. Ce médium a permis l'accès rituel et la stimuler la réflexion, inspirer l'imagination des rêves et des visions diurnes ou nocturnes. Il a même informé la pensée philosophique critique. On pouvait rencontrer les dieux et s'adresser à eux dans leur temple ou en dehors, en prière ou avec dédication. Des sacrifices permettaient, via l'expiscine, de poser des questions et de recevoir une réponse immédiate. La question à propos de la volonté des dieux dans les nombreuses formes de divination puise aussi fréquemment dans ce système de représentation, par exemple quand une statue est frappée par la foudre. Le terme « idolâtrie » semble être bien moins péjoratif aujourd'hui. Ou au moins, il devrait l'être. À une époque d'innovation médiatique, les sciences humaines ont découvert les images comme un objet majeur de recherche. Des spécialités comme l'histoire de l'art où l'iconologie a progressé jusqu'au centre de la recherche en anthropologie en tant qu'étude religieuse. Puisant dans les concepts et les résultats de telles enquêtes, j'essaierai de décrire plus précisément la place des images dans la religion romaine en me demandant ont-ils et comment ont-ils représenté les dieux? Et pourquoi est-ce que les pratiques qui appartiennent aux images avoisinent la superstition aux yeux des philosophes? Il faut trouver des preuves contemporaines. Dans son discours devant les pontifes, Cicéron, en le 1er siècle avant Jésus-Christ, proteste que Claudius lui a volé sa maison sans une base légale suffisante pour la transformer en sanctuaire, c'est-à-dire d'avoir consacré sa maison, d'avoir élevé un monument à l'endroit de sa maison, d'avoir dédicacé une statue. Consecrasse monumentum fecisse, signum dedicasse. clairement, ceci est une intensification dans la qualité religieuse. Les étapes ne sont pas une suite nécessaire. Selon le droit romain de propriété et des procédures publiques usuelles, un magistrat pouvait dédier une part de terrain au dieu, transférant ainsi la propriété du domaine public au pouvoir d'un dieu, les rendant sacra. Un monument religieux, l'étape suivante, n'a pas besoin d'abriter une statue. On pourrait penser à un autel ouvert, à une enceinte, même à une structure couverte. Bien sûr, troisièmement, une statue attesterait indéniablement qu'une telle structure doit être considérée comme la maison Hades d'un dieu, une habitation d'une divinité et non un espace de rangement ou une salle de réunion, une scola, des édifices qui peuvent aussi bien sûr abriter des statues. Piété et rituel pouvaient exister sans images. Et pourtant, à l'époque de Cicéron, les images étaient importantes et omniprésentes. Dans le cas de la fondation douteuse d'un temple par Claudius, c'est l'utilisation de la statue dont nous apprendrons davantage de détails plus tard dans le discours de Cicéron et dans le mien, qui scelle la sacralisation de la propriété précédemment privée et qui, je suppose, a créé une ambiguïté intérieure. Varron, contemporain de Cicéron, prétend que ceci est un développement ancien, mais secondaire. Après 170 ans de culte sans image, Deos sine simulacro coloisse. Même si des temples, Varron parle plus précisément des structures couvertes testudines, ont déjà été en usage plus tôt. Probablement de façon légitime, Varron indique une influence grecque et étrusque dans ces questions et le fait que la statuaire soit intimement liée au décor architectural. Non seulement l'unique ou les quelques images à l'intérieur des temples, mais également les nombreuses images mises au plafond ont dû être l'innovation la plus frappante et elles sont restées le sceau de cette période et de celles plus tardives des temples toscanes et leurs variantes romaines. À présent, je ne vais pas discuter la signification historique de la déclaration philosophiquement motivée de Varron qui postule, parce que je ne vois pas comment Varron aurait eu la possibilité d'avoir de claires preuves du manque d'images, alors qui postule l'absence des grandes images dans un lieu médio-italien avant le début de la monumentalisation urbaine. Et pourtant, Varron avait probablement raison. À l'exception de l'Égypte, l'essor des images anthropomorphiques sur le continent et dans les marches des cultures grecques et proche-orientales est datable de la fin de la première moitié du millénaire avant Jésus-Christ, uniquement selon la recherche récente. Comme déjà signalé, les caractéristiques centrales de la religion romaine pouvaient fonctionner sans une référence aux images. La propriété divine dans l'espace ou dans le temps, c'est-à-dire un terrain consacré où les feriae, vacances marquées dans le calendrier par NP et attribuées à un seul dieu chacune, ces instruments pouvaient être vus plutôt comme des caractéristiques statiques. Cependant, même les prières et les sacrifices pouvaient être réalisés sans adresse directe à une image. Un autel temporaire fait de mottes de gazon et de la simple faïence pour la vaisselle suffisait, comme Varron le signale dans le contexte de sa critique du luxe des temples. Mais ceci n'est pas une description adéquate de la période tardo-républicaine et impériale. Un Romain de cette époque n'avait pas besoin d'aller dans un temple pour connaître les images. Pendant un bref moment, je passe devant ou j'entre dans quelques maisons pompéiennes contemporaines à Sénèque et Plutarque. Dans l'encadrement de la porte de la maison des Vettii, un visiteur rencontrait une image de Priape. Celle-ci est célèbre pour son pénis mis en balance avec un sac de monnaie, mais il est représentatif de Priape d'être fréquemment trouvé dans une entrée, indiquant probablement une punition sexuelle pour les voleurs et les invités se conduisaient mal plutôt que la débauche sexuelle. La position complexe des portes permettait aux gardiens de cette maison de forcer certains invités à une confrontation directe avec Priape grâce à une entrée plus petite, ou juste de les laisser passer devant l'image grâce à un encadrement de porte plus large, uniquement pour rencontrer de nouveaux Priapes sous forme de statue dans une fontaine du péristyle. Dans une autre maison de la Regio VI, célèbre pour sa soi-disant procession de charpentiers, qui montrait des personnes ordinaires, peut-être les propriétaires transportant une image de Minerve, l'encadrement de porte numéro 9, aujourd'hui effacé, accueillait un visiteur avec des peintures de Mercure et des fortunes à sa gauche et à sa droite. L'interprétation de Jean Clark est confirmée par de nombreux exemples. Je cite, « Le propriétaire, à ce qui semble, était en train de doubler sa chance puisque Mercure était le dieu qui rendait prospères les marchands et les commerçants. Fortuna apportait aussi bien richesse et prospérité. » À l'extérieur, une peinture de Minerve complétait la combinaison de divinités protectrices. Un troisième exemple. Au-dessus de l'entrée de la boutique de la procession de Subelle dans la Regio 9, numéro 1, il y avait une rangée de 4 bustes représentant Sol, Jupiter, Mercure et Luna. C'est, voilà, Sol, un peu difficile, 7-4 bustes. Une nouvelle fois, je suis Clark et je développe son interprétation. Le soleil et la lune fixaient la boutique dans une structure cosmique, à l'intérieur de laquelle le barbu Jupiter indiquait la structure politique romaine, Mercure, la richesse accordée par le commerce. Évidemment, une telle forme de communication entre le propriétaire et les visiteurs ou clients présuppose une standardisation du médium et de sa signification pour utiliser une première classification. C'est un nombre réduit d'éléments, c'est-à-dire des divinités, qui sont combinées. la stabilisation de la signification est produite par la pratique iconographique. Ce mécanisme a été vu par Varron. Après ses explications systématiques et ses constructions de différents groupes de dieux hautement spécialisés, il a ajouté à sa structure de 15 livres des Antiquitates Rerum Divinarum un 16e livre, De 10 Precipuis Atque Selectis, sur les dieux spéciaux et sélectionnés. Dans l'introduction du livre, il a défini ceci comme ces dieux qui recevaient des temples et qui étaient distingués par plusieurs signes, quibus aedes dedicaverunt et osque pluribus signis ornatus notaverunt. Linguistiquement, Varron semble être en train de contracter l'idée de statue, toujours appelé simulacra ailleurs, et d'attributs donnant un caractère unique à chacune d'elles. Un dieu seul pouvait être vénéré sans image, comme cela est indiqué dans un autre fragment, 15. Mais, pour une différenciation supplémentaire, des temples et des images sont nécessaires. La dédicace d'une statue par des femmes permet la création d'une fortuna muliebris. Fortuna et felicitas pouvaient être différenciées avant tout en ayant des temples différents. Ce principe énoncé, Varron a des problèmes pour imaginer le traitement de la multitude des dieux déjà introduits par le roi Numa au début de l'histoire romaine. Clairement, différents rituels sacrés existaient, mais ces événements temporaires auraient-ils suffi à différencier de nombreux dieux de façon permanente, doit-il avoir raisonné. Différentes paraphrases et passages parallèles suggèrent que Varron, même s'il prétend qu'il n'y avait pas encore d'image et de temple, présume qu'une sorte de différents petits sanctuaires des Lubras doivent avoir existé. Il devait être signalé que les récits, un média alternatif possible, ne sont pas mentionnés dans ces contextes. D'énormes différences entre connaissances religieuses codées dans les textes et connaissances codées en images sont un phénomène fréquent dans l'histoire des religions. Et un phénomène inquiétant pour un Varron qui est en train de transformer la religion en connaissance, comme j'ai démontré dans ma première conférence. Une confirmation importante de cette interprétation des fragments varroniennes est donnée par l'explication du pontife Cotta dans le traité de Cicéron de la nature des dieux. Je cite, traduit, « Dès l'enfance, nous nous représentons Jupiter, Junon, Minerve, Neptune, Vulcan, Apollon et les autres dieux avec les traits que peintres et sculpteurs leur ont donnés et non seulement leur visage, mais leurs attributs, leur âge, leurs vêtements sont pour nous choses fixées. » Bien sûr, ce fait est un problème, comme le débat philosophique le signale. Cela est arbitraire, contingent, non une notion pour laquelle on pourrait bâtir un concept de Dieu anthropomorphique comme le font les épicuriens. mais la critique occasionnelle des intellectuels, naturellement partagée par Varron et renforcée par nos philosophes de premier siècle après Jésus-Christ, ne mettait pas en danger le véritable fonctionnement du système sémantique. Et les intellectuels savaient aussi expliquer cet usage pratique. Après tout, Varron passe sur sa critique antérieure. Les statues et leurs attributs, disait-il ailleurs, avaient l'intention d'aider l'initié à voir la véritable signification des dieux, l'âme, anima, imprégnant le monde. Dans une perspective historique, d'autres avantages étaient plus importants. La domination du système iconographique a permis la facile génération des nouveaux dieux. Fortuna Molibris a été déjà mentionnée. Le culte des qualités divines ou des personnifications, qui semble si gênant pour les explications modernes de la religion antique, perd toute exception s'il est approché à partir d'un angle visuel. Les temples et les statues font d'eux une partie intégrale du système. À en juger par le nombre de prodiges reportés pour ces temples, Salus, salut, Fortuna ou Concordia, la Concorde, n'étaient pas différentes du Junon ou de Mars. Environ un tiers des prodiges reportés pour le temple se rapportent à de telles divinités. C'est du temple d'une telle déesse, Fortuna Huiusque Diei, que nous avons des fragments d'une de ses plus grandes statues. Sa statue de probablement plus de 8 mètres reposait sur une base de plus de 2 mètres de haut et devait avoir rempli le petit espace du temple circulaire B de l'Argo Argentina. Récemment popularisé, le concept du picturing, de transformer un monde en fabriquant des images de celui-ci, semble saisir ce processus de mise en image habilement. Mes remarques précédentes semblent impliquer une prolifération illimitée de nouveaux dieux et des statues. Le contraire est vrai. Le même Cotta Cicéronien remarquait déjà que le nombre de dieux dans le rituel et les textes pontificaux romains était plutôt limité. L'inflation des signes aurait mis en danger le fonctionnement du système sémantique comme décrit auparavant. Les nouveaux cultes étaient soumis à une procédure sénatoriale complexe et une seconde source potentielle d'inflation était aussi freinée. Comme l'observe Peter Stewart dans son merveilleux livre sur les statues dans la société romaine, il existait, je cite, de fortes pressions sociopolitiques qui assurent la différenciation des images divines et humaines à Rome. La différenciation conceptuelle se reflétait dans la terminologie littéraire. Encore une fois, Stuart, simulacrum avec ses associations divines et spécifiquement non appliquées aux statuts commémoratifs honorifiques et publics des êtres humains. Mais l'initiative individuelle est toujours menaçant la stabilité labile de la religion élitaire dite publique, soit d'une statue d'or de César, soit d'une déification des privés. Je suis en train de retourner peu à peu à mon point de départ, la louable et inacceptable utilisation d'images. c'est une trêve de la tendance iconique des iconic turns que des images soient créées en voyant. Quand étant vues, elles soient perçues comme regardant l'observateur, concentrant ainsi l'analyse sur l'interaction entre objet et observateur, plutôt qu'entre les qualités inhérentes de l'objet et une approche sémiotique uniquement. Le regard du visiteur du temple change l'image, crée, si vous voulez, un fait social nouveau. Varron a raison en déclarant que les images faites en bronze, en faïence, en plâtre ou en marbre n'y ressentent rien et ne demandent rien, ne produisant ainsi ni culpabilité ni gratitude. Brèvement dit, pour Varron, la déviance est impossible. Et pourtant, les visiteurs en priant s'est fait entendre du Dieu, même si la divinité refuse d'accorder le vœu. En ce qui concerne les pratiques votives, les poèmes de Propers sur Vertumnus dans le Vicus de Tuscus est bien plus une analyse de ces processus constructifs montrant les réflexions d'un poète augustinien. Tout ceci corrobore le témoignage négatif de Sénèque et Plutarque, qui constituait le début de mon argumentation. Reflétant les limites de la religion appropriée, les pratiques liées au statut sont au cœur de la critique de la superstition. Même si certaines réactions envers des images et des images anthropomorphiques, envers des images d'humains en particulier, ont un fondement anthropologique, de telles réactions et même un simple coup d'œil sont culturellement dénoncées et potentiellement une source de conflit. Évidemment, un grand nombre d'usagers romains ont interprété la confrontation avec la statue comme une rencontre personnelle. J'aimerais revenir au discours de Cicéron devant les pontifes. Pendant environ 5 paragraphes, Cicéron traite de la divinité à laquelle sa maison a été dédiée. Le témoignage dit: cette belle istapulcra, cette belle liberté, votre déesse, a rachassé indignement mes pénates et mes lards pour être installée par vous comme sur un terrain conquis. Mais à quelle déesse en a-t-il fait l'hommage? Il faut que ce soit la bonne déesse, puisqu'elle a été consacrée par vous, Claudius. C'est, dit-il, à la liberté. Vous l'avez donc installée dans ma maison après l'avoir bannie de Rome? Vous placiez impudemment la statue de la liberté qui elle-même attestait votre despotisme et la servitude du peuple romain? Si la liberté devait chasser quelqu'un de chez lui, était-ce un citoyen sans lequel tous les citoyens ensemble auraient été assujettis à des esclaves? Mais où l'a-t-on trouvée, cette liberté? 111. J'ai voulu le savoir. Non loin de Tanagra, le tombeau d'une courtisane de cette vie était surmonté de sa statue. Un noble, assez proche parent de notre religieux pontife de la liberté, c'est Claudius, prit cette statue pour en orner son édilité. 12. quand à la statue enlevée du tombeau de la courtisane, il en fit présent à Claudius pour représenter la liberté des hommes de son espèce, bien plus que la liberté publique. Qui oserait profaner cette divinité, image d'une courtisane ornement d'un tombeau, enlevée par un voleur, inaugurée par un sacrilège? Voilà, dans la divinité qui me chassera de ma maison, qui, pour venger son ancienne patrie, s'enrichira des dépouilles de la République et fera partie d'un monument élevé pour attester aux siècles les plus reculés la honte et l'oppression du Sénat. Le passage commence et finit avec des personnifications. Libertas agit. Elle expulse Cicéron de sa maison. Au milieu, l'histoire de la véritable statue est racontée, une statue funéraire d'une prostituée, objet d'une succession de déplacements illégitimes, une véritable liste de déviances religieuses. Cependant, Cicéron ne fait pas de distinction entre déesse et forme matérielle. Ista tua libertas, ton propre type de liberté, n'est pas une adresse bienveillante à une divinité. Et il, contrariant que l'ennemi public numéro de la liberté civile chérisse une telle déesse. Mais c'est une divinité. Au point de vue sémantique et syntaxique, la forme conceptuelle et la forme matérielle de la divinité sont traitées strictement de façon parallèle, en insistant sur l'identité. Atque dea est fait parallèle à at unde est. La déesse est présente dans son simulacrum, elle sert de simulacrum. Libertatis simulacrum in ea domo fait parallèle à libertas domo sua. La divinité est aussi négative que sa statue et vice-versa. Cette sensation de présence converge vers les conclusions archéologiques de quelques archéologistes allemands, Anna von Hesberg et Dirk Steuernagel. En parallèle d'un développement qui est visible dans la restauration de certains temples grecs aux époques hellénistiques et impériales, mais répandu en Sicile et dans le sud d'Italie, les temples romains semble avoir organisé cette sensation de présence pour permettre des expériences correspondantes. Les indices sont les intérieurs somptueux des temples, des régulations architectoniques complexes de l'accès et une présentation très soigneuse de la statue du culte. Les portes et leur encadrement gagnaient en importance. Des mosaïques au sol ou des rideaux pouvaient articuler la structure de l'intérieur du temple et la dimension temporelle du processus d'accès à la statue. Positionner la statue directement sur un sol de mosaïque insiste sur sa mobilité. La combinaison de différents matériaux pouvait rehausser l'impression de vivacité. Ceci ne se combine pas toujours bien avec la tradition grecque d'une esthétique imposante produite par une belle et volumineuse image dans le mur du fond de la plus profonde chambre. Le témoignage anecdotique, déjà mentionné plus tôt, va également dans ce sens. Publius Cornelius Scipio Africanus passait chaque nuit avant des décisions majeures, fréquemment assis seul dans la cella l'intérieur du temple de Jupiter dans le temple capitolin, comme s'il dialoguait avec les dieux, quasi consultantem de Republica cum Jove, écrit Tite-Live. Pourtant, l'expérience du Dieu n'a pas besoin d'être réduite à des visiteurs individuels. Les temples pouvaient être volés ou détruits, et ceci est appelé sacrilège. Cependant, des temples et des statues ont été occasionnellement attaqués par les dieux eux-mêmes, une des formes de prodigium, prodige. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Dans un récit mythologique, dans son poème sur son propre consulat, le même Cicéron imagine Jupiter lançant la foudre depuis l'hôte de son propre temple, séparant clairement Dieu et objet possédé. Pour l'épicurien Lucrèce, les mêmes phénomènes servaient comme argument contre l'origine divine de la foudre. Les deux se concentrent sur Jupiter. Ceci est contre la pratique standard. Régulièrement, les spécialistes appelés pour l'interprétation des prodiges déclaraient, et cela était tenu pour acquis, que c'était le dieu de la statue ou du temple respectif qui devait être servi après tel signe, l'avancée d'un loup, la puissance destructrice d'une tempête ou la foudre. Cette interprétation a eu des conséquences pratiques lorsqu'en 208 avant Jésus-Christ, les pontifes s'opposèrent à la dédicace d'une kella commune d'un temple à deux dieux, Onos et Virtus, puisqu'ils n'auraient pu être capables d'identifier suffisamment clairement les destinataires du rituel accompagnant un prodige, si les deux dieux habitent dans le même espace. Il n'y a pas de théorisation dans ces passages racontant le prodige comme les rituels qui s'en suivent, rien comme l'aveu de Plutarque qu'un dieu pouvait signifier quelque chose à travers des procédés naturels comme ceux impliqués dans les soi-disant statues pleurantes. Peu importe les origines et la situation menant à la fondation d'un temple et à la dédicace d'un statut, anciens figures avec maintes histoires à raconter ou qualités nouvellement divinisées, les prodiges ont gardé les dieux impliqués dans les affaires romaines, non pas à partir d'ailleurs, mais dans le même endroit et la même forme que la représentation religieuse leur avait donnée. Comment peut-on conceptualiser les conclusions? Plutôt, j'ai proposé le concept de représentation comme un point de départ. Si nous donnons la priorité à la notion d'existence métaphysique des dieux, ce concept est utile. La statue est un signe ou un symbole pour quelque chose d'autre. Une telle interprétation est en accord avec l'antique pensée philosophique et théologique. On pourrait discuter la pertinence et l'adéquation du matériel sémiotique dans le sens de métaphore comme à partir de la question du matériel réel utilisé. Pour les statues des empereurs, débutant avec César, il s'agissait d'un véritable discours politique. L'habituelle indexation des signes impliquait qu'un avantage déjà signalé par Hans-Georg Gadamer, dont la position peut être résumée comme ceci. Une représentation rehausse la réalité ontologique de ce qui est représenté. ou plus concrètement, si des images se reportent aux dieux, les dieux doivent exister. Des discussions à propos de l'iconicité, la ressemblance du signe doivent s'en suivre, comme nous l'avons vu dans la controverse entre l'épicurien Velleius et le sceptique Cotta, comme imaginé par Cicéron dans son dialogue De Natura Deorum, de l'essence des dieux. Pour l'habitude romaine que nous avons brièvement regardée sous forme de pratique répandue, le mot « représentation » ne fonctionne pas, ni la présence temporaire. La possibilité d'admettre ou de nier la présence du Dieu lorsque l'on fait face à son image, si clairement montrée pour la religion grecque par Richard Gordon, ne fonctionne pas dans la façon d'un discours d'habiter, de trouver une place temporaire, ainsi de suite. Concept qui suppose tous la distinction métaphysique entre Dieu et image. Mais opter simplement pour la présence serait trop facile également, même si nous nous restreignons à une sorte de tendance dominante. Les dieux romains ne sont pas juste présents dans leur image. En différence de Varron, ni Sénèque, ni Plutarque, ni Ovide affirment leur présence. Au contraire, leur objet critiqué en faisant très vividement. Lorsque l'on regarde les images des dieux romains non statuaires, elles ne sont pas fréquemment réalistes. Elles n'ont pas l'intention de saisir la divinité dans toute sa vivacité. Au lieu de cela, ces images non statuaires font référence à des images, à des statues. Elles sont la représentation des statues et iconographiquement marquées comme telles. Ceci vaut pour différents genres, comme l'a montré le même Peter Stuart. Les monnaies romaines ont fréquemment permis un regard irréaliste dans l'intérieur d'un temple sur un dieu sculptural ou vivant. Des lampes représentaient les dieux, comme des humains, dans une frontalité sculpturale. Des paysages idylliques dont les peintures murales présentaient des statues de dieux qui rendaient les observateurs représentés dans la peinture conscients de la présence de ces dieux. La présence des dieux n'est pas arbitraire, mais elle est sculpturale. Cette présence tire sa plausibilité non pas d'une forme spécifique ou matérielle, mais d'une expérience émotionnelle produite par les contextes spécifiques des temples, peut-être rehaussée par des rituels. Les nombreux dieux du polythéisme romain sont venus à l'existence en les représentant et en faisant l'expérience de leur statut. La leçon ainsi apprise est importante pour la lecture des scènes culturelles avec lesquelles j'ai commencé. La peinture murale de la procession de Cybèle à l'extérieur de la boutique du même nom, région 9, Insula 7, ne dépeint pas seulement, probablement, le commerçant et sa femme, en compagnie d'autres collègues, avec quelques attirés rituels. Cybèle, clairement démarquée comme étant une statue assise, placée sur une litière, mais d'une grandeur nature double, et dans l'image, elle est réellement en train de rencontrer toutes les personnes la regardant. Nous ne serons pas capables de répéter l'expérience des observateurs d'origine, ne faisons pas partie de leur individualisation religieuse. Mais nous pouvons essayer d'imaginer leur précédente expérience et leur habitude, leur imagination profonde et leur stabilisation culturelle, voyant ainsi une référence à une présence qui n'est pas anthropologiquement inhérente à l'image, mais due à des circonstances historiques que j'ai essayé de reconstruire. La déviance critiquée comme superstition par les philosophes ne va pas bien avec leur théologie, mais celle-ci est en accord avec l'idolâtrie polythéiste. Malgré la centralité de l'expérience dans la pensée sur la religion depuis la fin du XVIIIe siècle, le terme « expérience » n'a pas été consacré à la religion antique en dehors du judaïsme et du christianisme malgré les titres des quelques livres récents. La subjectivité même du terme « expérience », « pathos », contrairement à l'antique notion de « experientia », c'est-à-dire « apprendre par la pratique », la subjectivité semble être en contradiction avec le manque de sources antiques. Cependant, des récentes analyses des phénomènes ont produit un concept d'expérience qui tient compte de la relation entre l'expérience personnelle et la signification transmise culturellement et ouvre une perspective pour une utilisation historique du concept. J'y cite Matthias Jung, mon collègue au Centre Max Weber. L'expérience personnelle, vécue dans sa dimension qualitative et émotionnelle, reste muette et n'a aucun pouvoir pour transformer le comportement aussi longtemps qu'elle n'est pas articulée symboliquement. Et tout système de conviction et de pratique qui, du point de vue de la première personne, n'est plus vue comme expressive pour l'expérience qualitative, devient de façon croissante obsolète. L'expérience, ainsi, pouvait analytiquement mettre l'accent sur l'observateur et l'utilisateur des images et de l'espace sacré, et sur le mouvement vers et dans l'espace sacré. La perspective de superstition dans le rôle potentiellement dangereux des sanctuaires pour la religion, illustrée par deux intellectuels du 1er siècle après Jésus-Christ, n'est pas l'unique voie à entendre. D'autres pourraient développer une vue bien plus positive. Pour la période impériale, peut-être déjà à l'époque augustine, Héron d'Alexandrie décrit une large rangée d'instruments et de mécanismes pour créer dans le temple une confrontation avec le Dieu émotionnellement intensif et surprenant au moyen de miroirs. Dans son Pneumatica, les mécanismes suivants sont décrits. Des figures autour d'un autel qui bougent et font des libations tandis que de l'encens est brûlé sur l'autel. Une trompette retentit à l'ouverture des portes du temple. Une aspersion d'eau sur un rite séparé, des roues en mouvement. Dans les temples égyptiens, les portes du temple s'ouvrant et se fermant sur la foudre et les feux s'éteignant sur l'autel devant le temple grâce à différentes variantes techniques. Dans le second livre, est décrit un autel transparent, fait de verre ou de corne, à l'intérieur duquel des figures pouvaient être vues en train de bouger une fois le feu allumé. Enfin, un aménagement encore plus complexe des figures effectuant des libations et un serpent sifflant autour d'un autel trouve sa place. Il devrait également être signalé que l'automate décrit dans l'automatopoétique d'Héron ne montre pas un théâtre, comme nous avons l'habitude de le connaître pour des appareils modernes des siècles précédents, mais il montre une scène rituelle autour d'un autel devant un temple. Ceci devrait nous rappeler, même sans mécanisation, des aménagements architecturaux pouvaient permettre d'intensives expériences. Le tollé superstition est une réaction possible, mais pas nécessaire. Pour nous, le tollé est utile. En tant que recherche de contemporains sur la déviance, il aide à identifier les éléments dynamiques de l'antique religion basée sur la tradition. Il pourrait être conceptualisé comme un discours en cours, mais également comme des voix incohérentes. J'en veux, en accord avec Richard Gordon, un discours très élitaire, un essai de purifier la religion traditionnelle d'un point de vue théorique, un essai de démocratiser un comportement aristocratique. Ce ne touchait pas le personnage critiqué, mais les choses pourraient changer. Merci.